La science n'a pas de patrie parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité, c'est Louis Pasteur qui le disait. Il était bien loin de savoir que sa citation posait les bases de ce qui deviendra près de deux siècles plus tard le biohacking ou la biologie participative en français. Un mouvement qui veut s'affranchir des brevets, des grands laboratoires privés et rendre les sciences du vivant accessibles à tous, jusque dans certains cas extrêmes, chercher à modifier son propre corps pour le bien commun. Biohacking, qui sont les nouveaux explorateurs du vivant? C'est l'énoncé du problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour mener ce parcours exploratoire des sciences du vivant pour tous, nous avons le plaisir d'accueillir, on va dire, le porte-parole du biohacking en France. Thomas Landrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur du premier laboratoire ouvert et communautaire français qui s'appelle La Paillasse. On dit Biohacker Space en anglais. Et nous sommes également ravis d'accueillir Kitri Largeto. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice du projet Biohacking Safari, un projet qui a pour but de rendre compte des pratiques de biologie participative dans le monde. Comme chaque jour, nous sommes aussi en direct sur Twitter, si vous suivez le compte @laméthodefc. Alors pour commencer, donc biohacking, biologie participative, on hésite un peu entre les deux terminologies, français ou anglais. Il faut dire que biohacking, ça a un côté, on va dire, un peu plus inquiétant que biologie participative. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Thomas Landrin.
Je pense que dans le mot biohacking, en effet, il y a un côté très provocant parce que, en effet, il s'agit un peu de provoquer un changement culturel. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que aujourd'hui, la biologie, elle est réservée à une élite. Principalement, en fait, soit les chercheurs académiques, pour ceux qui sont passés par les fourches conines du système académique, soit, disons, au grand capital, parce que ça coûte très cher. Donc, il y avait une idée de dire que aujourd'hui, dans un monde numérisé, où les technologies sont de moins en moins chères, de plus en plus accessibles, que la biologie pourrait en faire partie. Et donc, de placer les mains, en fait, sur cette biologie qui était beaucoup trop importante, pour les laisser, en fait, aux seulement des professionnels. Donc voilà, dire que la biologie pouvait se faire en dehors des murs du laboratoire académique, c'était l'enjeu même du biohacking.
Biohacking, c'est aussi, étymologiquement, de hacker, hacker son propre corps, hacker la biologie, parce qu'il y a aussi un lien consanguin entre le biohacking et le hacking, donc la certaine volonté de pratique informatique aussi libérée du carcan des grandes entreprises. Kitri Largeto, il y a un lien entre les hackers et les biohackers?
Oui, il y a un lien. Alors derrière le mot hacking, en fait, il y a une idée de comprendre comment les choses sont faites, comment elles sont fabriquées, comment elles fonctionnent, et de pouvoir les détourner pour en donner une utilisation que l'on choisit. Donc vraiment, le hacking, c'est ça, plus que cette notion de pirate, qui est plutôt de l'ordre du cracker. Mmh. Donc effectivement, il y a cette culture-là, il y a des valeurs qui se rapprochent, qui vont être effectivement le partage, qui vont être la collaboration, qui vont être la décentralisation, notamment.
Alors, par exemple, sur votre compte Twitter, Thomas Landrin, vous proposez de rebooter la science. Donc, là aussi, on est dans du champ lexical de l'informatique. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le hacking, tout le monde a son ordinateur. On peut avoir des pratiques utilisées plus ou moins en fonction de son degré de connaissance et d'intérêt pour ces questions économiques autour du logiciel, des logiciels libres ou pas du tout. Qu'est-ce que le biohacking permet exactement d'utiliser de façon libre, en fait?
En fait, on s'aperçoit que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à un coût relativement abordable. Il y a un enjeu, par exemple, à savoir qu'est-ce qui nous entoure dans notre propre environnement, pas seulement un environnement physico-chimique, donc savoir ce qu'il y a dans l'air, ce qu'il y a dans l'eau, mais également notre environnement biologique. Et pour ça, ça devient très compliqué. Parce que les seuls tests, par exemple, de diagnostic génétique, pour savoir qu'est-ce qu'on a dans son assiette, est-ce que ce sont des OGM ou pas, quelles sont les espèces qu'on a dans son jardin, quelles sont les espèces d'algues qui envahissent en fait mon étang, etc. Eh bien, les tests génétiques, c'est compliqué à mettre en place parce qu'il n'y a que des entreprises très particulières qui peuvent les exécuter. Ça coûte très cher. Et surtout, ça prend du temps. Donc, il y a quelques années, quand on a monté la paillasse, il y avait un enjeu, en fait, à rendre, en fait, une forme de contre-pouvoir aux citoyens et à inventer, par exemple, des tests génétiques low cost pour que les gens puissent commencer à poser leurs propres questions et avoir leurs propres réponses.
On parle là aussi, pour rester encore hein, sur ce parallèle constitutif, puisque c'est le point de départ du biohacking, on va reparler de l'histoire et de la fondation de ce mouvement, mais on parle d'open source pour le vivant. On a tendance à penser que le vivant est naturellement open source, qu'on est tous, que tout est disponible, qu'on ne peut pas mettre de brevet sur le vivant. Quel est le lien entre, quelle est la volonté d'open sourçage, en tout cas du vivant, dans le biohacking, Kitri Largerot?
Il n'est pas forcément question de d'open source directement sur le vivant en tant que tel. Ça, c'est une question qui touche les biohackers, mais bien au-delà de ça, toutes les entreprises, tous les laboratoires à l'heure actuelle. Donc, il y a des questionnements juridiques sur l'open source et sur le libre, liées au vivant et au brevetage, qui sont importantes. Dans le biohacking, on va avoir cette idée d'open source en termes de protocole utilisable, en termes d'équipement. Donc, c'est vraiment ça qui va être mis en avant pour pouvoir faire de la biologie, il faut avoir accès à ces équipements. Et donc, l'une des façons, c'est d'essayer de les reproduire et de partager les plans pour que chacun puisse refaire ses outils, ainsi que les protocoles. La biologie implique des protocoles précis pour pouvoir être reproduite. Et ça, c'est effectivement ce qui est mis en accès libre à tout le monde.
Donc, vous vous adressez essentiellement à qui ? À des chercheurs, à des gens curieux, à des gens qui ont un certain niveau déjà d'éducation, d'intérêt, de culture académique, universitaire en biologie ou dans les sciences du vivant ? Thomas Landrin ?
On s'aperçoit en fait que beaucoup, pour pouvoir réaliser un protocole scientifique ou technologique, par exemple créer une nouvelle technologie ou se réapproprier une technologie comme par exemple ici le diagnostic génétique, c'est pas seulement des biologistes dont on a besoin. En fait, on a besoin aussi d'ingénieurs, que ce soit en électronique, en mécanique, on a aussi besoin aussi parfois de designers, et parfois aussi pour inventer un univers en fait autour de l'usage aussi d'artistes. On a besoin en fait beaucoup de compétences, beaucoup d'imagination, et reproduire en fait les environnements de travail où on va pouvoir avoir cette diversité, dans un laboratoire académique, c'est compliqué. L'avantage avec les laboratoires ouverts, c'est que cette diversité, elle existe parce que ces gens qui viennent dans ces laboratoires ont un objet commun, c'est l'envie en fait de se réapproprier la biologie. Et c'est ensemble en fait qu'ils vont travailler dans un cadre du coup participatif. Et c'est la raison pour laquelle ils vont faire ces protocoles, ils vont faire ces technologies dans un cadre ouvert, donc dit open source, parce que eux-mêmes en fait ont envie de continuer à voir la communauté qu'ils ont démarré grandir et voir en fait d'autres personnes, pas seulement sur leur propre territoire, dans d'autres pays, continuer en fait leur œuvre.
Alors on va essayer de voir un peu comment on va repartir depuis le début. On va essayer de voir un peu historiquement d'où est parti le biohacking. Vous allez nous raconter ça. Je disais là dans l'introduction, j'avais cette citation de Pasteur sur la science n'a pas de patrie parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité. Est-ce qu'on peut dire du coup que Pasteur est en quelque sorte le premier biohacker de l'histoire des sciences, Thomas Landrin?
Oui, c'est possible. Oui. Je pense qu'à cette époque-là, tout le monde était un peu biohacker parce qu'il n'y a pas vraiment en fait, de cadre particulier sur ce que devait être un laboratoire. Hein, beaucoup des laboratoires, d'ailleurs, étaient en fait, dans les sortes de cuisines. Hein. On voit aussi l'exemple du laboratoire de Pierre et Marie Curie. On voit comment ils ont découvert la radioactivité. Donc, l'idée, c'était en effet de montrer qu'un laboratoire n'était pas forcément cet espace blanc, un peu stérile, froid, dont on a l'image, en fait, pour la plupart, et ce qui est vrai, en fait, en soi, de dire qu'on peut, en fait, retrouver une forme de proximité, en fait, avec cette expérimentation. Voilà, et c'est le cas.
Ça veut dire, Kitri Largetot, que le XXe siècle, l'essor du brevet, du capitalisme, de grands groupes privés qui se sont appropriés beaucoup de choses, y compris les sciences du vivant, ça a changé, à votre sens, l'esprit des sciences et du partage ?
Ça a changé d'une certaine façon la façon dont on partageait des connaissances scientifiques ou des avancées. Ça a permis déjà un certain nombre de choses, la professionnalisation du scientifique, la valorisation de ce qu'est un scientifique vis-à-vis du savant tel que c'était plus avant. Donc effectivement aujourd'hui on arrive à un moment où on va vraiment dans une nouvelle version, mais comme l'a dit Thomas, qui nous rappelle un peu ce que c'était au départ. Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de sortir de cette ultra-spécialisation, ou en tout cas de permettre une alternative en parallèle de ce système. Donc de proposer que d'autres, effectivement, puissent s'en mêler, de redonner un réel sens et un réel pouvoir, implication à celui qu'on appelait le scientifique amateur, le citoyen.
Pour autant, on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens ont plus facilement accès, alors évidemment grâce à Internet, mais qu'il y a une curiosité scientifique qui est plus facilement comblable, donc à laquelle on peut répondre plus facilement grâce aux outils quotidiens, et que le fossé, au contraire, avant, était beaucoup plus grand entre le savant, comme vous l'appeliez, et le citoyen qui n'avait vraiment aucune idée ou aucune notion des sciences qui étaient effectuées, Thomas Landrin.
C'est tout à fait vrai. On a accès maintenant à une quantité astronomique d'informations et de cours aussi, d'outils pour pouvoir partager en fait ses connaissances et puis son apprentissage avec d'autres personnes, et ce sans limite en fait de distance physique. Maintenant, ça pose une question, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec ces connaissances? Est-ce que aujourd'hui on a changé la manière en fait d'apprendre avec les MOOC par exemple? Pourquoi on changerait pas la manière en fait de faire de la recherche? Pourquoi on permettrait pas en fait justement à cette nouvelle génération en fait, eh bien d'acteurs en fait et du qui ont en fait ont appris par eux-mêmes, et d'amateurs éclairés, eh bien, d'accéder à des laboratoires. Aujourd'hui, les laboratoires académiques ne permettent pas en fait, ce niveau d'ouverture. Donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu monter la paillasse.
Qu'est-ce que vous lui reprochez finalement à ce point-là, à la recherche académique ou à la recherche privée? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, la plupart des gens, et on reçoit ici beaucoup de scientifiques qui font leur parcours. Mmh. Vous-même avez commencé en recherche académique. Qu'est-ce qu'elle a de si dysfonctionnel pour qu'il faille proposer un autre modèle?
Disons que la recherche académique en fait a énormément de mérite et permet en fait pour les personnes qui officient, qui travaillent, une grande liberté d'action. Et donc c'est un environnement, lorsqu'on est chercheur, qui peut être exceptionnel. Tout à fait. Et donc ce qu'on essaie de critiquer ici, c'est de montrer que c'est un milieu qui reste trop fermé. J'aurais envie de dire, prenez le nombre de chercheurs qu'il y a dans le monde. Probablement, il y en a peut-être 1 million ou 2.
Voilà. Ce serait bien normal de vous donner un chiffre.
Si vous prenez le nombre de personnes qui ont un certain nombre de compétences, une envie en fait de pouvoir changer les choses, je pense que ça se compte au minimum en centaines de millions. Ça veut dire à peu près 1 ou 2% de la population mondiale. C'est littéralement au moins 100 voire 1000 fois plus en fait que le nombre de chercheurs. Comment fait-on pour permettre à ces gens-là, eh bien, d'approcher un milieu de laboratoire qui est un espace privilégié en fait pour pouvoir expérimenter, se poser des questions et avoir des réponses, et donc ainsi peut-être permettre de nouvelles avancées, se dire que il n'y a pas de monopole pour les grandes idées, que c'est pas forcément parce qu'on est chercheur, on a démarré chercheur dans sa vie, que on doit être chercheur toute sa vie, ou qu'on n'a pas commencé en étant chercheur, qu'on ne peut plus jamais être chercheur dans sa vie.
Oui, Kitri.
Là où je pense aussi que le mouvement comme le biohacking ou plus généralement l'open science est intéressant, c'est que ça va questionner le système en place. C'est-à-dire que le système en place apporte un certain nombre de choses qui ne pourront pas être faites dans des laboratoires citoyens comme du biohacking. Par contre, ça va questionner la façon dont on partage les données. Et donc ça pousse les mouvements aussi à l'heure actuelle, en les questionnant, sur l'open access, donc la possibilité d'avoir accès donc, aux observations, aux data en libre. Ça pousse des questionnements sur la collaboration. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a une espèce de miroir qui entraîne aussi la recherche académique classique, voire entrepreneuriale, à se poser des questions et à vraiment pousser dans ce sens de changement.
Et faire le pari donc du citoyen chercheur ou du citoyen scientifique, où tous les citoyens seraient potentiellement disposés à pousser la porte de ces laboratoires pour aller essayer, se pencher sur une paillasse.
C'est ça, c'est qu'on ne peut pas savoir d'où est-ce que va venir forcément la bonne idée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en fait qui sont absolument géniales, absolument partout, et ne sont pas forcément en fait dans le système académique, n'ont pas eu la chance d'y rentrer par exemple. Comment fait-on pour les prendre en compte? Et donc, c'est offrir cette alternative. Je demande d'en parler à Kitri, pour permettre justement une plus grande inclusion en fait, finalement, en fait, de cette diversité.
Alors je vous propose de jeter une oreille à notre archive du jour, tous les jours, grâce à notre partenaire le CNRS Images. Le film date de 2004, on y entend le biophysicien Jacques Testard, qui sera d'ailleurs notre invité jeudi prochain le 24 novembre, Jacques Testard, papa des bébés rouvettes donc, qui exprime son avis sur la transmission du savoir scientifique. Écoutez.
À partir du moment où la science nous a amené à la technoscience et donc à ces dangers qu'on connaît depuis une trentaine d'années dans le domaine de la santé et de l'environnement, ça a été l'occasion d'inventer des parades, c'est-à-dire des procédures démocratiques pour essayer de pallier à cette machine infernale qui se développe toute seule selon ses propres intérêts, et par exemple les conférences de citoyens. Alors, c'est bien évident que tout ça, ça ne va pas dans le sens des industriels, mais je crois qu'il va falloir avoir le courage politique d'aller jusqu'au bout. Quand j'entends des chefs de gouvernement, comme du nôtre par exemple, des chefs d'État, nous dire « il y a le feu, la maison brûle », tout ça, faire des discours par exemple sur les OGM en disant « il faut être très prudent », et puis de l'autre côté envoyer un ministre à Bruxelles pour qu'il donne l'autorisation sur des OGM, on se fout de nous, on est manipulés complètement. Donc il va falloir quand même qu'on exige que la société civile puisse s'exprimer, et elle a des moyens de s'exprimer, et qu'elle soit écoutée. Et quand on dit c'est au niveau d'un pays, moi je suis pour des conférences de citoyens au niveau du monde. C'est-à-dire que l'ONU pourrait prendre en charge sur un sujet comme les OGM, qui ne concerne pas que la France ou les États-Unis, mais le monde entier, puisque tout ça se dissémine et bientôt il y aura ces gènes-là dans tous les végétaux. Ils vont aller partout. Donc c'est un sujet d'envergure, un sujet mondialisé. Et je serais assez pour que l'ONU prenne en charge le truc et fasse des conférences de citoyens sous son égide, en garantissant l'objectivité de ces procédures, dans 3, 4, 5 pays simultanément. Et mon opinion, ce que je crois, mon hypothèse, c'est qu'on obtiendrait la même réponse si on fait ça au fond de l'Afrique, si on fait ça en Suède, si on fait ça n'importe. On aura la même réponse parce que les gens informés deviennent intelligents, je l'ai dit, et fraternels, et ils réagissent de la même façon. Et à ce moment-là, on verrait bien que c'est des lobbies qui nous manipulent.
Voilà, Jacques Testard, en 2004, hein, les gens informés deviennent intelligents et fraternels. C'est ça l'avènement du citoyen chercheur que vous, dont vous faites la promotion, Thomas Landrin.
Il y a un enjeu, en effet, à pouvoir en fait effacer ce canyon métaphorique qui existe entre la recherche et les citoyens. Aujourd'hui, la manière dont on expose les problématiques scientifiques sont tellement simplifiées que on est obligé d'utiliser des métaphores concrètement, et donc ça pose des problèmes de compréhension. Les gens sont pas forcément à même en fait de comprendre les enjeux. Il y a des effets de lobby, en effet, qui soient en effet pour ou contre, hein, c'est des deux côtés, et ça pose un problème de liberté d'expression, de compréhension, et à un moment donné, en fait, aussi des actions qui sont portées en termes de neutralité. Et l'enjeu de la PAS, en effet, a été de pouvoir proposer un laboratoire neutre, dans le sens où tout et son contraire pouvaient être expérimentés. On ne porte pas, en fait, de vision particulière sur ce que devrait être la technologie. On souhaite avant tout que les gens puissent expérimenter.
Oui, Kitry Larjouteau.
Oui, si je peux me permettre, effectivement, alors sur la question de la neutralité, c'est toujours compliqué partout, mais disons que ça va permettre à différents points de vue de s'exprimer. Et ce qui est intéressant avec les biohacker space, à mon sens, c'est que il y a deux choses. Il y a cette idée d'éducation à la science, mais le biohacker space va le pousser plus loin parce qu'on va être dans la pratique. Et malgré tout, pour se faire une opinion, pour être capable de critiquer, il y a certes être informé, mais il y a aussi se rendre compte en faisant. Et je crois que c'est vraiment ça aussi qui est prôné par les biohacker space. C'est vraiment le faire, la pratique, ça permet une compréhension qui est nécessairement différente et donc une appropriation des sujets actuels qui font débat importante.
D'accord. On va revenir donc un peu, on va faire un peu d'histoire. C'est le point de départ de ce mouvement. Il est où, à quel endroit, dans le temps, dans l'espace, Kitry Larjouteau?
La question des origines est toujours...
Alors, pas forcément le patient zéro, mais disons
oui,
à quel endroit
n'est le mouvement. Alors, si on parle vraiment du do-it-yourself biologie, mm-hmm. donc ce mouvement particulier dans le biohacking, on peut le placer, par exemple, au niveau des États-Unis, grosso modo, en 2009. Mais il y avait déjà, en parallèle de ça, plutôt en Europe, aussi un collectif qui est aujourd'hui une plateforme d'activistes, d'artistes et de scientifiques qui s'appelle Acteria. Et donc, finalement, chacun a déjà poussé un peu leur version de la biologie ouverte. Sachant que sinon, si on regarde à d'autres endroits, il y a des gens qui le font sans mettre de nom dessus, finalement, depuis très longtemps.
Do-it-yourself biology, c'était quoi exactement à l'origine? C'était déjà un endroit où des gens se retrouvaient en dehors des cursus académiques? Ça s'est passé sur Internet?
Ça a été avant tout une philosophie qui s'est propagée à travers un groupe de discussion en ligne qui s'appelait le DIY Bio.
C'est un groupe DIY pour do-it-yourself.
Voilà, exactement. Et il y a un site qui s'est créé, diarebio.org, et qui a été très rapidement en fait le point d'orgue et le point de rencontre en fait justement de toutes ces personnes dans le monde qui s'y reconnaissaient dans cette philosophie qui prenait justement une biologie hors les murs. Et ça a démarré principalement à Boston, proche du MIT d'ailleurs, qui a été en fait aussi un architecte de la biologie synthétique, qui est elle-même en fait une approche très interdisciplinaire, relativement ouverte de la biologie.
Mmh. Mais académique malgré tout, le MIT c'est le Massachusetts Institute for Technology.
Académique, mais aussi en fait où l'entrepreneuriat prend une place très importante, parce qu'il y a une approche aussi ingénierie du vivant et qui a permis en fait à des personnes de se projeter, qui n'étaient pas forcément biologistes, qui pouvaient être ingénieurs en mécanique ou en électronique, sur ce que pouvait être en fait un mécanisme vivant. Et ça a permis justement d'apporter un nouveau souffle en fait à la biologie. Et donc ce mouvement est né en effet vers 2009 et très rapidement en fait c'est à compter sur des preuves de concept comme étant des petits laboratoires dans des placards, où des personnes allaient réaliser des tests génétiques. Par exemple, on a une personne, une femme aux États-Unis qui a pu tester en fait si elle était atteinte ou pas en fait d'un syndrome particulier qui atteint en fait le sang, c'est qu'il y a une quantité trop grande en fait de fer en fait dans le sang. Son père était atteint, c'est une maladie qui est très grave, on ne sait pas en fait la détecter forcément à temps en fait physiologiquement parlant. Par contre génétiquement oui, parce que c'est un caractère génétique. Et quand on l'a en fait, ça se traite très bien, mais si on laisse les symptômes traîner, ça peut être très grave. Elle a fait son test, un test ça valait je crois 2 000 $, elle avait pas 2 000 $, ça lui a coûté moins cher d'acheter en fait des pièces d'équipement scientifique sur eBay. Elle a fait son test soi-même et en effet elle a vu qu'elle était contaminée et enfin qu'elle était pardon, pas contaminée mais qu'elle était
positive au gène
et elle a pu commencer son traitement. Voilà. Donc c'est ce genre d'exemple qui montre que il y avait un intérêt aussi à cette sorte de libérer ce que pouvait être à la fois le diagnostic ici, ce que pouvait être en fait l'équipement scientifique. Il y a des personnes qui commencent à travailler sur des équipements similaires que ce qu'on peut trouver en laboratoire, mais beaucoup moins cher, en pratiquement en utilisant des choses qui sont contre-intuitives pour un scientifique. Ça, par exemple, une perceuse pour une centrifugeuse, ça va être du plastique découpé à la découpeuse laser pour faire des boîtes d'électrophorèse, etc.
C'est DIY, do it yourself, faites-le vous-même.
L'idée, en fait, c'est de montrer que la plupart des choses qui sont utilisées en laboratoire aujourd'hui, je dirais pas tout parce qu'il y a des choses extrêmement complexes et très poussées technologiquement parlant, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont utilisées qui sont très simples et qui aujourd'hui, malheureusement, coûtent encore extrêmement cher parce que le marché, en fait, du laboratoire est un marché qui est fermé et donc dans le sens où il n'y a pas vraiment de compétition. Et donc, ce pourquoi, en fait, un scientifique paierait 2 000 €, ça pourrait valoir en fait que 20 €. Voilà, à fabriquer soi-même.
Il y a on l'a entendu, les recherches portent beaucoup sur l'analyse génétique, notamment sur les tests ADN, sur l'accès à ce type de test, mais dès le départ aussi sur DIY Bio, donc cette mailing list qui est devenue l'un des premiers groupes officiels, on va dire, de biologie participative. On commence aussi à avoir un positionnement qui est très transhumaniste, hein. On cherche à faire des interfaces cerveau-machine, on est déjà dans une projection, dans une expérimentation un peu corporelle, non, Kitrine Largeteau?
Alors je pense, j'étais pas moi à l'origine sur la liste DIY Bio, mais je pense que c'était pas la majorité des personnes qui étaient orientées sur le transhumanisme. Dans, je parle bien de la mailing list DIY Bio et sur ces interfaces-là, il y a eu des questionnements, il y en a toujours, mais c'était pas à mon sens les principaux projets, les principales envies qui étaient poussées à ce moment-là.
Ce que je veux dire, c'est que c'est malgré tout quand même un peu intriqué avec le mouvement de biohacking. Il y a toujours quelque chose, une volonté d'aller un peu plus loin et d'aller vers l'amélioration.
Il y a eu une évolution en parallèle. D'un côté, on avait vraiment le do-it-yourself biology qui a été présenté plus tôt, qui était vraiment autour de cette liste diybio.org, tournée autour de la biologie hors humain. L'idée, c'était vraiment de travailler avec des bactéries, principalement, des choses relativement simples, de faire de la biologie synthétique, justement, pour permettre de synthétiser des biomolécules ou des biomatériaux, pour faire du diagnostic. Et puis, d'un autre côté, mais de manière orthogonale, j'ai envie de dire, parce que c'est pas en fait les mêmes personnes qui ont travaillé en fait sur les mêmes mouvements, on a ce qu'on appelle le grinding, et qui en effet ce body hacking, ce hack du corps, les gens parlent d'augmentation, c'est très transhumaniste, sur lequel en fait les gens ne sont pas associés. Donc par exemple à la PA, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. On est vraiment concentré en fait sur plus une partie de microbiologie, de biologie moléculaire, de biologie synthétique. Quand ce mouvement du transhumanisme est en effet est symbolique aussi en fait du biohacking, dans le sens où il essaye en fait de se réapproprier ici quelque chose qui est vivant, ici c'est notre propre corps. Après maintenant, c'est un mouvement qui est très encore, je veux dire, encore plus provocant et qui parfois frôle la performance artistique.
C'est DIY Bio qui vous a donné l'idée, Thomas Landrin, de fonder la paillasse à Paris. Racontez-nous les débuts de la paillasse, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez voulu réaliser au début en lançant cette aventure?
Ça s'est passé il y a 6 ans. Il y avait un enjeu. Alors j'ai entendu parler en fait la première fois du DIY Bio, en effet en 2009, quand ça avait commencé. Je me suis tout de suite inscrit sur cette mailing list et j'ai découvert une communauté incroyable qui prenait ces valeurs en fait de transparence, d'ouverture, de contre-pouvoir aussi autour de la biologie. Et ça a fait résonner en moi en fait beaucoup de choses. Je commençais tout juste ma thèse de doctorat en biologie synthétique au Genopole. Et je me suis retrouvé en fait dans mon propre laboratoire aussi confronté, et puis dans mon parcours académique précédent, à quand même plusieurs des limites qu'on peut associer justement au monde académique. Dans le sens, c'est très difficile de travailler sur ce qu'on veut, avec qui on veut et comme on veut. Et donc on ne peut pas forcément amener, par exemple, un designer dans son laboratoire comme ça. ou travailler sur un projet qui n'est pas dans la thématique de l'Institut.
Il y a un auditeur sur Twitter qui nous dit que les labos d'université sont souvent clos aux étudiants de premier et deuxième cycle, par exemple.
Exactement. Donc, il y avait un enjeu. Pour moi, c'était avant tout une expérience. C'est-à-dire que, très bien, cette philosophie, elle me parle. Est-ce que, si les laboratoires académiques ne sont pas en mesure de s'ouvrir, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un laboratoire qui soit entièrement ouvert et accessible, donc presque gratuit. À l'époque, construire un laboratoire, on peut l'imaginer, quand on a 25 ans, c'est compliqué. Eh bien, on a fait ça avec le moyen du bord, avec des amis. On a rejoint une communauté déjà existante qui s'appelait le TMP Lab, qui était un hackerspace présent à Vitry-sur-Seine. Mmh. C'était dans un squat d'artistes et on a récupéré 15 mètres carrés. Et on a installé dans cet espace-là un laboratoire de biotechnologie entièrement équipé.
Avec quel matériel ?
En faisant que de la récupération d'équipements scientifiques dans les poubelles de laboratoire, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a un turnover, c'est-à-dire qu'il y a un taux de remplacement en fait, des équipements scientifiques qui est tellement impressionnant que la plupart des équipements qui sont jetés sont encore fonctionnels. C'est la même chose avec les vêtements hein, chez nous, à un niveau personnel, mais ici, on a fabriqué en quelques mois seulement un laboratoire qui était même mieux équipé que mon propre laboratoire de thèse. Mmh. Et ce, pour 0 €.
Par ailleurs, il y a quand même beaucoup de chercheurs qu'on a reçus dans l'émission qui vous disent qu'ils travaillent avec du matériel vétuste, qu'ils ne sont pas contents, qu'ils ont des problèmes de matériel. Mmh.
C'est parce qu'il y a un problème de concentration de ressources. Il y a une asymétrie. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires, en effet, académiques qui sont obligés de survivre aujourd'hui quand d'autres, en fait, réussissent très, très bien. Il y a des instituts, en fait, qui sont très bien fournis. Il y a des laboratoires privés aussi qui sont très bien fournis. On a monté ce qu'on a appelé par la suite le réseau des biochineurs, qui était en effet une manière de mettre en commun en fait toutes ces ressources-là et de les redistribuer par la suite. Et on s'est aperçu en fait qu'aujourd'hui, on fonctionne encore comme ça. On n'est plus dans ce squat, évidemment, il y a 2 ans maintenant, on est arrivé à Paris, on a 800 mètres carrés dans le cœur de Paris, et plus de 80% des équipements qu'on met encore à disposition, c'est de la récup.
Mmh. Alors au début, donc vous commencez dans ce squat à Vitry. Aujourd'hui, vous avez déménagé, vous venez de le dire. Vous êtes dans des locaux immenses en plein centre. Vous avez été soutenu par la maire de Paris, qui a même fait le déplacement. C'est son premier déplacement, je crois, de son mandat.
Oui, c'est vrai.
Souvenir son mois, Anne Hidalgo. C'est quoi ? C'est le début de l'institutionnalisation ?
C'est une bonne question parce que à la base, l'expérience qu'on a réalisée à Vitry-sur-Seine était une expérience. On ne savait pas ce que ça allait donner. On a ouvert ce laboratoire et on a littéralement dit à chacun, venez, c'est ouvert, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Et vous avez eu beaucoup de monde au départ, vous étiez combien ?
Concrètement, si on regarde le nombre de personnes qui ont contribué sur les projets, on a à peu près une cinquantaine sur 3 ans. Ce qui est pas mal. On a travaillé sur une quinzaine de projets. Après, si on regarde le nombre de personnes qui sont passées par le laboratoire, c'est considérable. Ça se compte en plusieurs centaines minimum. Pourquoi ? Parce que ça attirait l'œil, ça attirait l'attention, les gens voulaient en savoir plus. Et puis on organisait en fait beaucoup aussi d'événements, de conférences, etc., ou d'ateliers. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que assez naturellement, ce ne sont pas des biologistes qui sont venus en fait en majorité dans ce laboratoire-là. On pouvait s'y attendre parce que c'est un laboratoire de biotechnologie. En fait, non, c'est majoritairement en fait des non-biologistes, donc des ingénieurs par exemple, des designers, des artistes, des gens de la société civile en fait, sans forcément avoir des compétences techniques particulières. En fait, qu'est-ce qui unifiait ces gens-là ? C'est tous en fait l'envie de faire la biologie. Jusqu'à présent, ils n'avaient jamais pu le faire. Et on s'est retrouvé avec une communauté très interdisciplinaire, avec toutes les compétences qu'il faut pour réaliser n'importe quel projet. On avait d'un seul coup ce sentiment très positif qui est apparu, qui a émergé, qu'on pouvait travailler sur ce qu'on voulait. Voilà. Et que c'est ce qu'on a fait. On a travaillé donc sur ces tests génétiques low cost, on a travaillé sur des nouveaux types de biomatériaux, par exemple de l'électronique biodégradable, des nouveaux types d'encre qu'on peut faire pousser soi-même à partir de bactéries, ou des nouvelles formes de textiles à partir de cellulose bactérienne. On a travaillé également en fait sur de l'équipement scientifique, donc que ce soit les centrifugeuses, machines PCR ou même des bioréacteurs. On a même répondu à des appels à projets en fait pour voir en fait si on était en mesure d'en gagner, comme on pouvait le faire en fait avec des laboratoires académiques. On a remporté un appel à projet de la NASA.
Quel projet ?
C'est pour construire un bioréacteur qui est une machine qui sert en fait à contrôler l'environnement de croissance de micro-organismes, par exemple pour faire des biomatériaux. C'est des machines qui coûtent extrêmement cher, 20 à 30 000 euros minimum pour la plus petite. Là, on a voulu en faire une pour moins de 500 euros. Et la NASA nous a écoutés puisqu'elle nous a en fait sélectionnés. On était le seul laboratoire européen en fait à être sélectionné sur cet appel à projet. Mmh. On a obtenu 20 000 euros, ce qui était énorme pour nous parce que littéralement on travaillait sur 0 €. Et on a pu comme ça investir sur cet équipement qui a été par la suite partagé, mis en ligne. Tous les plans en fait sont disponibles sur bioreacteur.org par exemple, openbioreacteur.org. Donc c'est ce qu'on appelle de l'open hardware. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a toute une communauté mondiale qui s'intéresse justement à ces alternatives que sont les biomatériaux. Et ils ont besoin en fait de ce genre de design pour avancer.
Parce qu'il faut, préciser, je me retourne vers vous, Kitry Largeteau, il faut préciser deux choses. C'est-à-dire que d'une, c'est participatif aussi parce qu'on l'a dit, c'est de l'open science. Donc c'est du partage, tout ce qui est produit dans les laboratoires est mis en accès libre, les plans sont mis en accès libre, mais aussi on entend bien dans ce que vient de nous dire Thomas Landrin, tous ces projets-là ont une philosophie commune, on est dans du DIY, du do-it-yourself, du recyclage, de la bio-ingénierie, il y a une philosophie derrière, au-delà du partage.
Oui, effectivement, il y a cette philosophie de grosso modo, de faire avec ce qu'on a autour de soi pour effectivement répondre à des projets. Après, je dirais qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des modèles de biohackerspace qu'il y a autour du monde, il y a cette philosophie, mais il y en a qui vont avoir des intentions quand même un peu différentes. C'est-à-dire que tout le monde n'est plus uniquement dans cette idée de recycler, mais on peut avoir envie de porter des projets plus loin. Donc certains vont vraiment avoir des projets qui veulent foncièrement low cost et donc à bas coût et vraiment accessible.
Par exemple, donnez-nous un ou deux exemples que vous avez en tête.
Alors, bon, il y a le DNA Backcoding dont Thomas a parlé tout à l'heure. Il y a des équipements scientifiques qui sont par exemple des machines PCR, qui sont vraiment du matériel de laboratoire. Il y a aussi, par exemple, le projet Ecopen, qui est pas mal lié à la paillasse, qui envisage de faire un écostéthoscope, effectivement, à bas coût.
C'est quoi un écostéthoscope ?
C'est un échographe.
Un échographe, d'accord.
Ouais. Donc là, c'est vraiment un projet, pour le coup, qui porte ses valeurs d'open source et d'accessibilité. Après, on a des projets qui vont qui sont plus vraiment de l'ordre de la recherche, type recherche fondamentale. Je pense à un projet de systématique et de phylogénie des champignons, par exemple, à Auckland, à San Francisco. Et il y en a qui vont aller, au contraire, vers des projets qui sont beaucoup plus entrepreneuriales. Ils veulent monter des entreprises. Et donc là, c'est des ambitions qui sont différentes. Et on peut aller vers des choses très, très, très pointues. Mmh. Et on a aussi, avec tout ça, quand même des designers et des artistes qui proposent des expérimentations. Donc ça, c'est aussi une autre voie de biohacking et qui pose des questions importantes pour l'avenir de la recherche, l'avenir de notre façon d'utiliser le vivant, de consommer aussi.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h34, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. On parle de biologie participative et de biohacking depuis tout à l'heure avec Thomas Landrin, le cofondateur du premier laboratoire ouvert et collaboratif La Paillasse, et de Kitry Largeteau, qui est cofondatrice, elle, du projet Biohacking Safari. On disait juste avant cette coupure musicale qu'effectivement, finalement, les laboratoires participatifs se sont de plus en plus institutionnalisés, entre guillemets, ils se sont saisis de projets qui sont éloignés du côté do it yourself dans votre salle de bain du tout début. Et quand on parle de tout début, on est sur une histoire courte, hein, puisqu'on était en 2009, donc il y a 7 ans à peine. Est-ce que ça veut dire qu'on est à l'âge de la maturité? Est-ce que c'est un être qui grandit très très vite, le biohacking aujourd'hui, Thomas Landrin?
C'est un point intéressant. Après avoir passé 3 ans dans ce laboratoire de Vitry-sur-Seine, littéralement dans ce squat, on s'est aperçu, en fait, au bout de 3 ans, par rapport à la qualité des projets qui avaient été réalisés, leur devenir, parce que certains, en fait, sont devenus aussi, en fait, des sources d'inspiration pour porter d'autres laboratoires de type Payas, donc dans le monde. Également, en fait, des protocoles qui ont été repris, en fait, par des musées ou par des écoles, en fait, pour faire des outils pédagogiques, par exemple. Même d'autres projets qui sont devenus des startups. Le projet d'encre biologique, par exemple, est devenue une start-up qui s'appelle Pili, qui fait maintenant des colorants naturels, en fait, par fermentation. Et puis après être financé par un organisme comme la NASA, on s'est dit, finalement, on est aussi légitime qu'un laboratoire, en fait, académique moyen.
Aussi légitime, puis peut-être aussi gros et aussi académique.
Et finalement, aussi, on est relativement intéressant d'un point de vue de créativité et de productivité. Et donc, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on le laisse, en fait, dans une cave, justement, pour garder ce côté très underground, très alternatif? Ou concrètement, est-ce qu'on n'a pas ici ce qui pourrait être la graine, demain, d'une véritable alternative, complémentaire, mais alternative tout de même, au monde académique?
Kitri Largeteau, juste sur cette idée, justement, du point de basculement, du passage à l'âge adulte, entre guillemets.
Je dirais que déjà, ça dépend ce qu'on appelle maturité. Pour moi, c'est selon les critères qu'il y a derrière, comme le disait Thomas.
Le changement d'échelle, disons.
Ouais, un changement d'échelle, parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de jolis projets qui ont émergé finalement dans des endroits restreints, dans des squats. C'est le cas de la paillasse, mais c'est le cas de plein d'autres. Donc, il y avait déjà une maturité, je dirais, en termes de projets et de preuves de concept qui pouvaient en sortir. Effectivement, un certain nombre de communautés comme la paillasse tentent le passage à l'échelle. Et c'est là où on voit des adaptations finalement aussi de la vision au départ et les envies aussi de chacun, parce que chaque communauté, un peu partout dans le monde, sont assez différentes, ont un écosystème aux alentours différents, et ça va beaucoup influencer aussi ce vers quoi on va aller. Donc la paillasse est vraiment dans une envie de passage à l'échelle, de revendiquer une alternative de la recherche. C'est pas le cas d'autres communautés, d'autres labos qui sont pourtant aussi, je pourrais dire, dans un âge de maturité. Après, on a je pense que tout n'est pas joué, on est dans une phase je dirais où on essaie de continuer d'avancer et le devenir est encore incertain pour un certain nombre de points en particulier. Effectivement, peut-être qu'il y a encore autre chose qui va se passer, qui va permettre de déployer encore davantage le potentiel du biohacking. Ou pas.
Mais dans ce passage à l'échelle, Thomas Landrin, vous finalement la paillasse est devenue presque aujourd'hui une sorte d'incubateur où on trouve un peu de tout, hein, des ingénieurs, des artistes, des designers. Enfin, est-ce que vous avez pas peur de en prenant cette ampleur là de perdre un peu la nature de ce qui était les origines de votre projet?
Il a fallu en fait démontrer d'abord en fait que on pouvait mettre à échelle, en fait, une telle initiative. C'était vraiment le pari. Et pour ça, il fallait monter un modèle économique. Et montrer que vous pouvez monter un modèle économique sans s'appuyer, en fait, sur les subventions. Ça, c'était très important.
Vous n'êtes pas subventionné aujourd'hui, vous avez zéro subvention.
On a reçu des subventions de la ville de Paris et de la région Île-de-France qui ont été capitales pour faire les rénovations du bâtiment où on se trouve. Mais aujourd'hui, on ne fonctionne pas sur les subventions. On a développé notre propre modèle économique basé entre autres sur une forme de coworking. Donc les gens, en fait, qui vont accéder à la paillasse, certains vont payer un peu leur poste de travail, mais de manière très abordable parce que justement, on récupère la majorité des équipements qu'on utilise.
De manière abordable pour avoir un ordre de grandeur?
Ça va de 150 à 500 euros par mois grand max, et c'est même, on propose aujourd'hui un format de résidence gratuite à la paillasse qui s'appelle l'Open Residence et qui permettent en fait à des personnes d'accéder entièrement à toutes les ressources de la paillasse autant qu'ils veulent, en échange de quoi ils doivent donner 5 jours par mois de leur temps, et on fait des projets collaboratifs ensemble avec ces personnes-là. Mais il y avait un enjeu de montrer qu'on était en mesure justement de garder cette neutralité et cette autonomie à grande échelle. Et donc on a pris un espace de 800 m² dans le cœur de Paris qui fait à peu près la taille d'un petit institut de recherche en soi. Et aujourd'hui, on est en mesure d'accueillir à peu près entre 60 et 80 personnes pour y travailler. On a des laboratoires de biologie, mais plus seulement, on a également en fait des laboratoires d'électronique, de fabrication numérique par exemple. Voilà, l'idée c'est également en fait de traitement big data, aller chercher à la fois en fait la vision de ce que peut être le software, ce qu'on appelle aussi le hardware, et in fine le wetware, le wet qui veut dire humide en anglais, qui représente la biologie expérimentale. Et on voit en fait que ça a un intérêt parce que ça permet en fait de faire grandir une fois de plus ce qui est clé ici, la diversité. Voilà. Et donc de mettre un tel laboratoire au centre de la cité, ça a été aussi très important parce que en étant en banlieue parisienne, aussi loin et dans une cave littéralement, j'ai envie de vous dire, il y avait 90% de mecs, quoi.
Voilà. ce modèle économique dont vient de parler Thomas Landrin, c'est celui de tous les laboratoires collaboratifs quand ils essayent justement de passer à l'échelle. Kitty Largeteau.
Alors grosso modo, de toute façon, l'argent, il vient soit effectivement de subventions publiques, soit du privé, soit de si les personnes qui font partie de la communauté participent, donnent une participation pour l'association, s'il y a des locations, etc. Donc grosso modo, c'est la même chose. Après, on va avoir des variations en termes de proportions. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui vont aller davantage vers des financements privés, ce qui est quand même assez rare. Hein. Beaucoup qui vont plutôt rester effectivement sur la participation de la communauté ou du public. Et on a effectivement quelques extrêmes qui vont travailler aussi sur les extrêmes, je dirais, sur les communs. Dans tous les cas, c'est de l'expérimentation. Il faut se confronter au réel pour voir effectivement ce qu'on peut mettre en place. Et il va y avoir des aménagements du coup sur la communauté existante, c'est-à-dire que certains vont partir, d'autres vont rester, d'autres vont arriver. Et ça, effectivement, ça se crée au fur et à mesure. Donc il y a une différence de proportion entre tous ces modes de financement en fonction des valeurs principales qui sont portées par la communauté à un instant T.
Il n'y a pas d'interdit qui serait celui du passage à la dénaturation, du changement de
dans certaines communautés, si. Dans certaines communautés, effectivement, c'est anticapitaliste, si je puis dire, donc pas du tout de financement privé, etc. Donc ça, effectivement, c'est un choix. On va vraiment travailler sur les communs.
Par exemple, vous, Thomas Landrin, vous avez travaillé là depuis cette année avec les laboratoires Roche sur un projet Epidemium. Travailler avec des laboratoires privés, ça veut dire pactiser avec le diable ou au contraire avoir réussi à convertir l'ennemi?
C'est un excellent point. Pour nous, il y avait un enjeu, c'est de montrer que ces nouvelles communautés qui émergeaient, de ces laboratoires justement ouverts et communautaires, eh bien, on pouvait les bridger, enfin faire un pont concrètement, avec les acteurs un peu plus traditionnels, qui sont soit les laboratoires académiques, soit les industriels, ou en fait les acteurs de la société civile aussi. Et pour ça, on s'est dit que le meilleur moyen de le faire, c'est de les faire travailler ensemble sur des projets, et à travers des programmes de recherche ouverts. Et ces programmes de recherche, ça consiste à prendre une thématique, une problématique, et là, en effet, avec les laboratoires Roche, on a pris le cancer, mieux comprendre le cancer en utilisant les big data, et plus particulièrement les open big data, puisque le cadre, en fait, d'action d'Epidemium, c'est de s'appuyer uniquement sur les open data, et que toute production de la communauté, et des acteurs et des participants, eh bien, sont en open data et en open source. Et ça, c'est très intéressant parce que on a pu réaliser quelque chose d'assez unique avec Epidemium, c'est montrer que c'est une diversité d'acteurs, on en a mobilisé plus de 300 pendant 6 mois, qui étaient pour la plupart en dehors du monde académique, ou alors qui avaient quitté le monde académique. On a plein d'exemples, des personnes qui travaillent par exemple dans des banques, qui sont des data scientists, qui sont probablement eux-mêmes touchés en fait par le cancer plus ou moins directement, ils ont énormément de moyens, ils ont énormément de compétences, et d'un seul coup, on va pouvoir en fait leur donner un environnement de travail dans lequel ils allaient pouvoir travailler sur le cancer. Et en effet, on a des très beaux résultats qui ont été réalisés par des personnes qui travaillaient par exemple, je dis un exemple, à la Société Générale ou d'autres qui travaillaient en fait dans les startups en fait de Big Data. Ils ont travaillé dans un cadre tout à fait ouvert, ils ont libéré en fait leur travail qui est maintenant utilisable par tout le monde, littéralement, sur le wiki d'Epidemium. Et on a été également, par exemple, très heureux, en fait, de voir que l'éventail d'âge, en fait, d'Epidemium allait de 15 à 92 ans. 92 ans, c'est l'âge, en fait, d'une vieille dame, mais aussi d'une grande dame, puisque cette dame, c'est la co-découvreuse, en fait, du syndrome de Down, qui est, en fait, la trisomie 21. C'est une personne qui est à la retraite depuis longtemps. Pour elle, l'Epidemium, ça a été une occasion de se réengager finalement dans la recherche avec une communauté et des moyens. Donc, c'est plein d'exemples comme ça qui ont montré que, en liant en fait un cadre d'ouverture et communautaire, on permettait en fait à cette diversité en fait d'agir ensemble et de réaliser des projets justement pour cette compréhension aussi cruciale qui est la compréhension du cancer.
Donc c'est avoir réussi, si je comprends bien, à convertir l'ennemi. En un mot avant d'écouter le reportage du jour, est-ce que ça a fait débat au sein de la paillasse, le fait de travailler pour les laboratoires Roche?
Ça a forcément fait débat, évidemment. Et Roche, je pense, a joué le jeu jusqu'au bout puisqu'ils ont libéré une partie de leurs données cliniques. Ils ont libéré en fait en open data l'équivalent de données de plus de 8000 patients qui ont été anonymisés évidemment et qui ont pu être mis à disposition en fait de ces chercheurs en fait du dimanche entre guillemets qui ont utilisé en fait leur temps libre pour pouvoir travailler sur ces choses-là.
On a parlé donc de biohacking. On l'a évoqué tout à l'heure. Hein, parfois on peut pousser le biohacking jusqu'à utiliser son corps pour le bien commun, hein, pour essayer des choses qui seraient difficiles d'essayer dans des laboratoires plus traditionnel, comme vous allez l'entendre aujourd'hui avec le reportage d'Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous avez rencontré un adepte du biohacking cérébral.
Oui, il s'appelle Paul Périer, il est membre du Cog Lab, un groupe qui se définit comme un open lab rassemblant des hackers, des passionnés et des experts qui explorent les sciences cognitives et les neurotechnologies. Je l'ai rencontré dans un endroit digne d'un petit musée de l'électronique, le Club Radio de Rueil-Malmaison. Et c'est dans cette salle pleine de boîtes remplies de piles, de circuits électroniques, de petits robots et de reproductions d'engins électrique du passé qu'il fabrique avec ses propres moyens, ce qu'il appelle des bio-amplificateurs. Pour le dire vite, il essaie de rendre visibles sur un écran d'ordinateur les courants du corps humain et les contractions musculaires. Dans le même temps, il fait une sorte de travail d'historien puisqu'il reproduit avec les moyens modernes les machines des pionniers du biohacking. Et il fait tout ça dans cette ambiance de science-fiction à l'ancienne du Club Radio, où on trouve aussi bien des vieux Minitel que des électrodes et des microcontrôleurs.
Le club électronique, hein, tout ce qui, radio électronique, tout et ce tout ce qu'il faut pour faire l'électronique.
Ben, je fais des, je m'intéresse à la bioélectricité, donc je fais des petits montages pour capter les courants du corps humain, pour les visualiser, faire différentes applications. Donc on peut faire différentes choses, on peut faire de la robotique, on peut faire du contrôle des muscles, par exemple relaxation ou rééducation.
Sur quel type d'expérience vous travaillez en ce moment ?
Alors là, je travaille sur des amplificateurs, des bio-amplificateurs, donc ces amplificateurs des courants du corps humain, donc principalement les courants musculaires. Donc on met des électrodes sur les muscles et on amplifie le courant et ensuite on visualise. On peut visualiser sur l'écran d'un ordinateur. Et mon ambition, ça va être de faire une connexion avec sur un smartphone, visualiser la contraction musculaire et le stress sur un smartphone, quoi.
Avec quel matériel vous mesurez ça, vous faites vos expériences?
C'est un système électronique simple, ça s'appelle des amplificateurs opérationnels ou d'instrumentation. Donc ces 8 trucs, ils valent rien du tout maintenant, ça vaut, je dirais, moins d'un euro. Donc on amplifie ça, on met ça sur des appareils qui s'appellent les Arduino, donc des petits micro-ordinateurs, et on transfère ça par Bluetooth sur smartphone. L'appareil que je fais, c'est un appareil qui a été inventé par quelqu'un qui s'appelait Edmund Jacobson, qui a fait ça en 1910. Il a fait un appareil gigantesque avec des assez cher, avec des lampes et tout ça. Et Jacobson, donc pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a inventé la relaxation, le terme relaxation. Donc moi je fais pour quelques euros l'appareil, 100 ans après d'ailleurs, l'appareil assez compliqué. Et en fin de compte, c'était un biohacker lui aussi dans son temps.
Et vous, d'ailleurs, ça fait un moment que vous vous intéressez. Déjà, dans les années 80, vous meniez des expériences sur l'électrosommeil. En quoi consistaient-elles, ces expériences-là?
Moi, je cherchais des techniques pour se relaxer, pour se détendre. Et j'avais vu qu'il y avait un appareil qui s'appelait électro-relaxation. En faisant passer des micro-courants à travers les électrodes placées sur la tête, hein, pas invasives, on arrivait à induire un état de relaxation et de sommeil. Donc des courants très faibles. Donc j'ai fait les tests, hein, j'ai regardé les caractéristiques techniques, j'ai construit mes petits appareils très simples. Et je faisais des tests comme ça, c'est-à-dire j'expérimentais ça. Au début j'avais un peu peur de faire passer du courant dans le cerveau. Bon, quand ça marchait, j'avais plus peur du tout. Et ça marchait bien, c'est-à-dire que normalement je dormais mal, je m'endormais assez mal, je dormais pendant 8 heures de sommeil lourd. Et quand je faisais ces tests, c'est-à-dire quand je faisais pendant 45 minutes, donc c'était électro-sommeil en faisant passer du courant dans le cerveau. Donc je m'endormais pendant 6 heures, je dormais très bien, je me réveillais en sautant du lit à 6 heures du matin. Quoi.
Grâce à ces électrodes que vous mettiez sur la tête?
Oui, donc je suppose que ça, grâce à ces électrodes, je veux dire grâce au courant qui passait dans le cerveau. Et donc j'ai cherché après, parce que ce truc-là, ça s'appelle électro-sommeil, maintenant c'est nouveau à la mode. C'est électrode de surface, hein, donc c'est pas dangereux. Et donc je pense qu'avec le biofeedback, donc avec les appareils de biohacking donc, qui amplifient les courants du corps humain, qui visualisent, on peut arriver à se contrôler de manière beaucoup plus puissante qu'un appareil électrique, à l'apprentissage quoi.
Est-ce qu'on pourrait voir un peu, je sais pas, oui. Faire une expérience en direct, je sais pas si ça peut se faire. Mais...
Alors l'appareil simple, je dirais, c'est un prototype. Ben, je mets des électrodes sur mon muscle, sur le muscle de l'avant-bras intérieur. Donc je vais placer les électrodes. Voilà. Donc il y a du fil. Hein. Donc ça, c'est l'électrode électrocardiogramme, hein. C'est exactement la même chose. Donc ces électrodes vont sur un appareil, un amplificateur, ça s'appelle un bioamplificateur, fait maison, hein, ça se voit, c'est un prototype. Donc ça, ça vaut, je dirais, ça va avoir 3 euros environ le montage. Donc c'est une expérimentation. Donc là, j'ai branché la pile. Mais il faut savoir que les courants, c'est de l'ordre de quelques microvolts. À 100 millivolts, ça amplifie 1000 fois. Et un courant très faible qui va être visualisé sur l'ordinateur.
Donc là, vous branchez votre système à l'ordinateur.
Oui.
Alors, plus précisément à la prise du...
Sur l'entrée. C'est le casque, ça. Non, c'est le micro.
Ouais, c'est l'entrée micro.
Je le mets sur le micro. Donc là, je vais le mettre ici.
Et là, on a un spectre qui apparaît sur l'écran et qui traduit...
La contraction musculaire, voilà. Alors là, je vais me relaxer comme ça. Donc là, il n'y a rien, c'est l'écran presque plein. Il y a des parasites, en fin de compte. Et quand je contracte mon muscle, on s'aperçoit qu'il y a des phases de contraction musculaire. Alors le but ici, c'est... quand mon muscle est contracté, je le sais. Donc j'ai pas besoin de l'appareil pour le voir. Moi, ce que je veux, c'est les... quand mon muscle, mon bras est relaxé, je veux savoir quelles... les micro-contractions. C'est-à-dire que apparemment, il n'y a aucun... Je contracte pas mon muscle, donc il ne devrait rien avoir, mais on s'aperçoit qu'il y a des micro-contractions imperceptibles par la conscience, et justement, c'est ces micro-contractions qui reflètent les émotions. Quand j'arriverai à envoyer les parasites, parce que les parasites sont 10 fois plus importants que ce que je veux voir, ben, je verrai les émotions. Donc c'est un peu un détecteur d'émotions. C'est pas un détecteur de mensonges, hein. C'est mes émotions à moi. Je veux voir, justement, je veux graduer mes émotions. Et l'inventeur de ça, donc il y a 100 ans, Jacobson, pour lui, c'était le but de l'apprentissage, c'était de faire 0 volt. C'est-à-dire que les gens, quand il n'y avait aucune visualisation à l'écran, quand il y avait 0 microvolt, ben, ils étaient hyper relaxés, quoi.
Est-ce que vous avez d'autres expériences en cours ?
J'ai que ça, je l'emmène aussi un petit peu donc, sur l'électrostimulation du cerveau. Je dirais, je lance ça de loin parce que ça peut être un peu dangereux, parce que je regarde ça sur Internet, ce que font les autres, bien sûr. Et quand ça marchera, je le ferai peut-être.
Voilà le reportage du jour sur cette électrostimulation qui est un cas particulier qui est allé rencontrer Antoine Beauchamp. Le temps nous manque malheureusement puisque vous allez le voir pour conclure cette émission comme chaque mercredi. Nous mettons, nous aussi ici à la méthode scientifique, à disposition de tous le savoir avec une jeune scientifique aujourd'hui qui vient présenter son sujet de recherche en 4 minutes. C'est Johanna Laloum qui se prête à l'exercice. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Vous êtes en 4e année de doctorat dans 2 labos, Agritair à Unilassal et Glicomev à Rouen, si je ne me trompe
pas. Exactement.
Bienvenue à la recherche Montre en main. Vous avez 4 minutes. C'est à vous.
Bonjour à tous. Bah, merci pour cette invitation. Donc, moi, je ne fais pas de biohacking, hein, mais je pense qu'on a en commun une certaine passion pour la science. Et donc, moi, mon doctorat, mon domaine d'étude concerne la phytopathologie. Donc, la phytopathologie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des maladies des plantes. Et dans le cadre de ma thèse, j'étudie une maladie qui touche la culture du pois. Et cette maladie, elle s'intitule la pourriture racinaire du pois. Donc, cette maladie, brièvement, elle a été découverte hein, dans les années 1920 par Charles Drechler aux États-Unis, dans le Wisconsin. Et donc, c'est une maladie qui est causée par un agent pathogène qui vit dans le sol, qui s'appelle Aphanomyces eutichs. Donc c'est un agent pathogène qui va aller infecter le système racinaire du pois, va aller détruire complètement le système racinaire du pois pour finalement provoquer la mort de la plante. Et on pourrait se demander, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette maladie et à quoi ça sert de l'étudier ? Donc il faut savoir que le pois, ça représente de réels intérêts agronomiques pour l'agriculture, donc ça a vraiment de nombreux avantages. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que Aphanomyces eutichs, donc d'après des études américaines, c'est l'un des organismes pathogènes le plus préjudiciable sur la culture du pois. Ça veut dire que parmi l'ensemble des pathogènes qui sont susceptibles d'aller infecter la plante, Aphanomyces donc, est vraiment considéré comme l'organisme qui va causer le plus de dégâts et de ravages. Donc, ce qui est très préjudiciable pour l'agriculteur puisqu'il va perdre la totalité de sa récolte dans les cas les plus sévères. Et donc ça fait à peu près plus de 90 ans que maintenant la maladie a été découverte et malheureusement nous ne disposons d'aucune méthode de lutte efficace hein, pour lutter contre cette maladie-là. Et donc c'est pourquoi il est nécessaire encore de développer les recherches pour vraiment aboutir à des réponses qui nous permettraient de lutter efficacement contre cette maladie. Et donc moi, dans le cadre de ma thèse, j'étudie le pathosystème, donc j'étudie la maladie à 2 échelles. Donc la première question que je me pose, c'est de savoir quelles sont les interactions qu'il existe entre l'agent pathogène et la plante en elle-même. C'est-à-dire, je cherche à comprendre, quand je mets en présence mon agent pathogène avec ma plante, quelles vont être les réactions de la plante. comment la plante va réagir, quelles vont être ses réactions de défense. Et j'observais ça à l'échelle racinaire, comment la plante va vraiment réagir à cette échelle-là. Là, une question inverse se pose aussi, à savoir comment la plante va pouvoir influencer l'agent pathogène. Parce que ce qui est intéressant dans ce pathosystème, c'est de comprendre que c'est la plante elle-même qui va trahir sa présence à l'agent pathogène. Je m'explique. Donc la plante, elle a son système racinaire qui est ancré dans le sol. Et au niveau de ses racines, la plante va sécréter des différents composés. Et c'est ces composés qui vont attirer l'agent pathogène à elle. Et donc l'idée, ce serait de comprendre quels seraient ces composés qui permettraient cet effet d'attraction, ce qu'on appelle le chimiotactisme, pour in fine, pourquoi pas développer des lignées végétales qui ne seraient plus en mesure de sécréter ces composés-là. Après, il y a une autre façon d'étudier la maladie, c'est de changer d'échelle, c'est de travailler à l'échelle du sol. Donc depuis trop longtemps, le sol a été considéré comme un support inerte, en fait, où simplement on ancrait les plantes et ça servait simplement de support. Et en fait, non, il faut s'imaginer que par exemple, dans un gramme de sol, vous avez plus de 10 puissance 6 bactéries, donc 1 milliard de bactéries dans un gramme de sol. Je vous laisserai imaginer ce que ça représente à l'échelle d'une parcelle. Et donc il faut s'imaginer que dans ce sol, l'ensemble des micro-organismes qui sont présents interagissent les uns avec les autres. Donc on va avoir du parasitisme, enfin différentes interactions au niveau du sol. Et donc ces micro-organismes ont formé un écosystème et ils vont contribuer à la bonne santé des sols. Et donc moi, ma question, c'est de trouver des sols qui seraient suppressifs. Donc je m'explique, un sol suppressif, ce serait quoi? Ce serait en présence de l'agent pathogène et en présence de ma plante, malgré que donc, j'ai les deux organismes présents, je n'ai pas de développement de maladie. Et donc ce serait vraiment un sol suppressif. Et l'idée, ce serait de comprendre À quoi est dû cet effet suppressif ? Quels seraient, à l'échelle biologique, les acteurs de cette suppressivité ? Donc voilà.
Eh bien, bon courage pour vos recherches. En tout cas, bravo pour cette présentation. Un mot dans les quelques secondes qui nous restent. Thomas Landrin, la paillasse, les projets en cours, quelque chose.
Aujourd'hui, il y a un enjeu, en effet, c'est de pouvoir permettre d'ouvrir en fait la recherche au plus grand nombre et de pouvoir imaginer en fait que les grandes œuvres scientifiques de demain ne soient pas forcément en fait à l'initiative seulement des États, mais aussi des communautés. Et que demain, on peut imaginer en effet que des grandes œuvres scientifiques puissent être démarrées par des millions de personnes qui pourront être mises en commun à travers justement le numérique qui touchera à ce moment-là la recherche à plus grande échelle.
Merci beaucoup, mille merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation, Johanna Laloum pour la présentation de vos travaux de recherche, Kitri Largeteau et Thomas Landrin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les chroniques, la recherche montre en main, les reportages, évidemment l'intégralité de l'émission sur le site franceculture.fr, la page La Méthode Scientifique. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous podcaster et je dois dire que ça nous fait assez plaisir. Et merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Léo Quentin, Antoine Beauchamp, Nami Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne et Eve Etienne, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique aujourd'hui Élise Leu et au droit d'auteur Julie Guéroux. Demain, nous partirons loin, très loin, pour notre journée dévolue à l'histoire des sciences. Nous vous raconterons l'histoire des grandes expéditions scientifiques d'hier à aujourd'hui avec en toile de fond cette question. Que nous reste-t-il à découvrir ? Dans un instant, troisième LSD de la semaine, la série documentaire qui est consacrée aux lanceurs d'alerte. Ça va aller prolonger, pourquoi pas, un peu notre thématique du jour. C'est une série signée Ignace Leroy et Perrine Kervran. Nous, on se retrouve, comme vous le savez, maintenant, demain à 16h, enfin jusqu'à preuve du contraire.